L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans quelques instants, nous irons en Suisse dans cet atelier découvrir le site Star Summit qui récompense les meilleurs startups du monde. Mais auparavant, notre passion selon Sanet, et on va s'intéresser aux développeurs, des travailleurs comme les autres, les développeurs. On voit ça tout de suite avec vos invités et vous, Lila Megrawa.
Oui, François. Alors effectivement, on va parler de développeurs. S'il existe bien une profession clé, un nerf de la guerre du numérique, c'est bien l'ami développeur. Alors codeur, ingénieur, chercheur, on hésite quelque peu sur les noms à donner à cette indigène du numérique. Et pourtant, il est bien l'un de ses plus vieux habitants. Alors, on va en parler avec Paris Chrysos. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Paris Chrysos, vous êtes enseignant-chercheur à l'ISC Paris. Vous avez publié cet hiver un ouvrage baptisé « Les développeurs » paru aux éditions FIP. Alors, expliquez-nous un peu pourquoi avoir consacré tout un livre autour du développeur. Est-ce à dire qu'on aurait une image fausse les concernant?
Oui, le problème c'était que on parlait souvent des développeurs, on en parle toujours, mais il n'y avait pas un ouvrage qui a fait l'effort de les décrire. On confond souvent les développeurs avec les codeurs, l'informaticien, comme vous l'avez dit auparavant. Donc cet ouvrage, issu de ma thèse à l'École des Mines, essaye de analyser les développeurs du point de vue de leur particularité. En quoi un développeur est particulier est un mot qui décrit une activité qui n'existait pas avant. Donc, j'essaye de tirer une différence entre les développeurs et les codeurs ou l'informaticien, etc. Et cette différence est due surtout sur une attitude personnelle vis-à-vis des technologies. Alors, bien évidemment, c'était le numérique, mais aujourd'hui, on peut trouver des développeurs à d'autres technologies où le numérique est moins important, comme le drone, les imprimantes 3D, les imprimantes ADN, ainsi de suite.
Et alors, par rapport à cette attitude, qu'est-ce qui diffère?
Le développeur, on peut le caractériser non pas par une technologie spécifique, parce que les technologies changent tout le temps, mais par une attitude qui est de dire qu'il y a d'un côté le day job, le travail officiel, l'emploi officiel, et d'autre, il y a le side project, un projet parallèle, personnel, et le développeur vit entre les deux côtés de son activité. Mais si on essaye effectivement de ne analyser le développeur que par son day job, on perd toute la richesse de cette attitude. Alors, le side project, c'est quelque chose qu'on va faire pour soi-même. Pourquoi? Parce qu'on est attiré par une technologie, on y trouve un potentiel et on s'investit à son exploration.
Donc en fait, si je vous comprends bien, le développeur est à la fois un travailleur comme les autres, mais pour autant, c'est un peu le découvreur, l'explorateur d'aujourd'hui, c'est ça?
Oui, tout à fait. Et c'est le professionnel de demain, ou l'entrepreneur de demain, ou le patron de demain. C'est lui qui va, étant donné les technologies génériques qui existent et qui sont accessibles à tous, lui, il va explorer des nouvelles valeurs d'usage ou d'échange ou même des valeurs purement fonctionnelles. Donc, il travaille pour son avenir à lui en travaillant pour l'avenir des technologies elles-mêmes. Donc, il se transforme. Et comme je montre dans mon ouvrage, il peut y avoir des usagers développeurs, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser une technologie pour eux-mêmes, des usagers développeurs entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui ont découvert déjà une valeur pour eux-mêmes, ils vont s'inscrire dans une démarche entrepreneuse. Et les développeurs entrepreneurs, ceux qui ont acquis des compétences Et là, ils s'intéressent à commercialiser leur savoir, en fait, à travers des applications, des produits ou des services.
Est-ce qu'on pourrait rapprocher le développeur d'un autre quelque part indigène du numérique, qui est le maker?
Oui, pour moi, moi j'utilise le mot développeur pour décrire tout un tas de nouveaux acteurs. Et pour moi, un maker, c'est un développeur des imprimantes 3D. C'est-à-dire, il va avoir la même attitude vis-à-vis de l'imprimante 3D qu'avait le développeur d'informatique vis-à-vis du web ou des applications mobiles, etc. Pour moi, c'est la même chose dans le sens de l'attitude. Ce qui change, effectivement, c'est les technologies et le potentiel technologique qui va avec.
Est-ce que chez le développeur, il n'y a pas également une dimension de formation continue, à savoir qu'on a un peu cette sensation que le développeur, à partir du moment, presque au moment où il valide son diplôme, une partie de son savoir est déjà obsolète. Est-ce que quelque part, ce n'est pas le métier par excellence qui nécessite une formation continue tout au long de sa carrière professionnelle ? Une remise à jour de ses connaissances?
C'est une des questions qui m'intrigue aussi. Déjà, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour être développeur, pour être maker. Par la suite, il ne s'agit pas d'une formation formelle. C'est-à-dire, il n'y a pas d'université en ce moment qui peut vous enseigner comment utiliser une imprimante 3D. Et il n'y a pas vraiment un métier de l'imprimeur 3D. Donc, le développeur, il va constituer le savoir-faire, et par une démarche exploratoire. Donc, c'est une auto-formation, si vous voulez, c'est par la découverte et par la fabrication du savoir-faire lui-même. Ce qui est le plus intéressant chez les développeurs, c'est justement son action qui n'est pas institutionnelle, donc qui ne s'inscrit pas dans la description formelle des métiers, des formations et des diplômes.
Vous évoquez dans votre ouvrage une notion qui m'est apparue comme quelque peu brumeuse, c'est l'économie brumeuse justement. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs en quoi ça consiste? Est-ce que c'est une économie un peu de la boîte noire?
Oui, effectivement, je me suis posé la question, à quoi correspond cette attitude du développeur au plan économique, à l'échelle économique? Et c'est le concept de l'économie brumeuse correspond à ce que l'on voit aujourd'hui, je pense, dans toute l'économie, c'est-à-dire il y a une grande partie de la valeur de nos objets, de nos produits, de nos technologies qui restent à découvrir. Donc, il y a une grande partie de la valeur de nos objets, de nos technologies, de nos services à découvrir. Par exemple, à quoi peut servir un drone pour une banque? À quoi peut servir une imprimante 3D pour une entreprise? On a le sentiment qu'effectivement, là-dedans, il devrait y avoir une valeur. Mais si on n'utilise que les outils rationnels qu'on est déjà, on parvient pas à creuser, à comprendre en quoi concrètement ça pourrait servir. Donc l'économie brumeuse, c'est deux choses. Une situation, une dimension exploratoire et une dimension rationalisante. Et il y a des boucles entre ces dimensions qui sont permanentes. On va essayer d'explorer en permanence le potentiel des nouvelles technologies, tout en étant en parallèle dans une posture de rationalisation de ce qu'on est en train de découvrir. Tandis que si on reste seulement à ce que nous pouvons déjà mesurer, nous pouvons déjà décrire comme travail et comme savoir, alors on perd, on laisse de côté tout cet espace de l'émergent, de l'inconnu de ce qui reste à découvrir.
Si le développeur, le statut du développeur, la manière d'apprendre du développeur dit quelque chose de l'évolution du savoir, aujourd'hui, vous avez également évoqué plus tôt son mode de travail, à savoir qu'à la fois, il aurait un emploi officiel et également un projet à côté. Est-ce que vous pensez qu'en regardant ce développeur, est-ce qu'on ne peut pas sentir quelque part les prémices, les premières esquisses de ce à quoi pourrait ressembler le travail dans le futur pour tout un chacun, à savoir qu'on travaillerait quelque peu à la mission et que pour autant on aurait des satellites de tâches différentes.
Je ne sais pas si le mode opératoire du développeur pourrait être quelque chose qui serait généralisé dans l'avenir. C'est une bonne question, je n'ai pas réfléchi. Mais on peut être sûr que ce que font les développeurs actuellement dans des technologies diverses deviendra un métier plus tard ou une entreprise. Ça ne veut pas dire que tout développeur va avoir ses résultats. Ainsi, il faut voir les développeurs dans leur ensemble, de manière collective et non pas au cas par cas. Généralement, cette activité qui n'est pas déterministe conduira à de nouveaux métiers, à de nouveaux business, model business, à de nouvelles entreprises, mais on ne sait pas quand et qui va le faire.
Alors je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez des barcamps? On voit de plus en plus de barcamps et de hackathons organisés par de grands groupes. On voit bien que le monde de l'entreprise s'empare du concept. Est-ce que vous pensez que c'est un dévoiement de l'esprit originel ou au contraire, est-ce que c'est une bonne nouvelle si les grandes entreprises s'en inspirent?
Non. Pas forcément. Je trouve que c'est juste une diffusion de ces deux modes de construire des collectifs qui ont commencé par les développeurs, et surtout aux États-Unis. Et là, ces modes se diffusent dans d'autres secteurs et d'autres activités.
Je pense que l'exploration, la dimension de découverte restera la notion qu'on gardera. Le développeur en tant que découvreur, explorateur d'aujourd'hui. Merci beaucoup Paris Chrysos. Je rappelle, vous êtes enseignant chercheur à l'ISC Paris et vous avez également publié et surtout un ouvrage baptisé Les développeurs qui est paru en hiver dernier aux éditions FIP. Merci beaucoup.
Lila, merci. On revient dans un instant. World Tour et French Tech Tour sur BFM Business dans cet atelier. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Merci d'être avec nous au cœur de cet atelier numérique sur BFM Business. Est-ce que vous vous souvenez du moteur de recherche Lycos avec ce chien qui allait chercher sur le web? Lycos n'existe plus. Ce sera le thème du crash test d'Antoine Cyr dans quelques minutes, mais dans l'immédiat notre World Tour. On jette un œil sur le site Star Summit. Avec vous, Lila Megrawa, vous êtes depuis la Suisse.
J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Alizé Tonac. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Alizé Tonac, vous êtes un peu une habituée de l'émission. On suit le SeedStar World Tour depuis un peu plus de 2 ans déjà. Alors, cette année, vous vous êtes arrêté un peu plus de 50 fois. Vous avez fait plusieurs fois le tour du monde. Vous avez vocation. Vous êtes un peu une espèce d'inspecteur gadget ou plutôt à la recherche de la meilleure start-up au monde dans les pays émergents. Alors dites-nous, cette année, quelles tendances ont plus ou moins émergé pour vous?
Alors déjà, j'aime beaucoup la comparaison inspecteur gadget. Je trouve ça très bien dit. Donc en termes de tendances, on en voit certaines qui sont assez mondiales, que ça soit au niveau du gaming, du augmented reality. On a beaucoup de solutions également pour des sociétés, donc en termes d'accounting, de gestion de leur recrutement ou du paiement des salariés. variés. Ce qui était très intéressant aussi, c'est voir par région. Donc, par exemple, en Afrique, on voit une forte tendance liée à toute la disruption quand on parle de paiement, parce que ben avec le succès de M-Pesa au Kenya ou avec simplement la, on va dire, cette virtual currency qu'on utilise pour payer avec le airtime, toutes sortes de choses, on se retrouve avec tous ces types de solutions de paiement, de remittance dans les différents pays en Afrique. En Asie, concrètement, on trouve des produits et des solutions parfois qui ont moins d'impact, dans le sens où il y a une classe moyenne encore plus forte, surtout en Southeast Asia, désolé avec les mots anglais. Et dans ces régions-là, tout ce qui est social media, social networks est encore très fort, ben parce que la pénétration de Facebook, de Twitter et les équivalents sont pas forcément aussi fortes. Mais surtout, ils ont réussi à réellement monétiser ce type de produit qui est beaucoup plus difficile qu'on le voit en Europe, par exemple.
Je le disais déjà en début d'interview, où vous faites le choix de vous focaliser sur les pays émergents. Pourquoi ? Est-ce que vous faites un pari sur ces pays ? Est-ce à dire que vous pensez qu'en fait l'innovation émergera dans ces pays en particulier ?
Absolument. Pour moi, les pays émergents, ça veut dire que en 2030, pratiquement 85% de la population sera dans ces pays-là. Ça veut dire que en 2020, donc tout bientôt, 80% des smartphones seront localisés dans ces pays-là. Dans les prochaines 4 années, on va avoir 500 millions de nouveaux utilisateurs connectés à l'internet, et c'est grâce à ces pays-là. Donc, je me pose la question, pourquoi on n'y est pas déjà ? Plutôt, et ça me paraît tellement évident de participer à la croissance de ces pays. Et ce qui est encore plus excitant, c'est que pour lancer des boîtes profitables, hein, quand je vois tous nos différents startups, elles sont très profitables et scalable, dans le sens qu'elles peuvent avoir un impact régional et international. On touche quand même la vie des gens qui sont encore en bas de la pyramide. Et c'est vraiment à travers la technologie qu'on peut leur donner la chance d'élever leur statut social. Donc ça a une mission très forte pour nous, et c'est une mission d'une vie.
Vous êtes déjà à la 3e édition de ce tour du monde des startups. Est-ce que vous avez observé une évolution ? Est-ce que, en fait, à organiser ce concours mondial du Seedstar, vous observez quelque part des effets vertueux sur les écosystèmes de ces pays ?
Donc, on a beaucoup de chance, c'est qu'on a des superbes histoires. On a réalisé au bout du premier tour du monde, donc j'avais co-organisé avec Pierre-Alain Masson, c'était la toute première édition dans 20 pays, l'année dernière on a fait 36 et maintenant 54, qu'on pouvait aider les entrepreneurs sur 3 axes. En termes de visibilité, parce qu'on est une forme de certification que ces entrepreneurs sont crédibles et on peut investir dans ces boîtes-là. Donc ça, c'était un message très fort, et on réalise qu'on devient un peu l'agence médiatique de tous nos entrepreneurs. Deuxièmement, en termes de connexion, parce que la réalité, l'argent, c'est une chose, mais ouvrir les portes, apporter les bons suppliers, clients potentiels, investisseurs qui peuvent apporter, ouvrir des portes à d'autres clients ou même des talents à recruter, c'est encore plus important. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de continuer à faire à travers notre réseau, à connecter constamment nos entrepreneurs avec les partenaires qui pourront les apporter au niveau supérieur. Et finalement, bien évidemment, l'investissement. Donc on y croit, on met de l'argent, nous et avec notre club d'investisseurs, dans ces sociétés, et on espère grandir et les suivre dans les années à venir.
Est-ce que pareillement vous observez une évolution ? J'imagine qu'il y a certaines villes dans lesquelles vous vous êtes rendu pour la 3e fois cette année. Est-ce que vous observez une évolution, peut-être davantage d'entrepreneurs ?
Oui. Absolument, et d'ailleurs je vois des croissances et le contraire. Certains hubs qui étaient très forts il y a quelques années qui se réduisent parce que le momentum des pays à côté attire. Mais absolument, est-ce que c'est parfois à cause d'initiatives publiques ? Donc par exemple en Bulgarie ou au Singapour, où il y a énormément de fonds publics qui sont mis pour entreprendre cet écosystème, et on voit que tout d'un coup ça attire tous les entrepreneurs de la région. Parfois c'est des initiatives privées où il y a un vrai effort de créer du deal flow, du talent local, que ça soit au Ghana par exemple, ou un incubateur privé s'est lancé sur une mission de 20 ans pour construire des entrepreneurs, donc le Meltwater Technology School of Technology. Et ça continue aussi grâce à des indicateurs comme la diaspora qui commence à réaliser que c'est le moment de rentrer à la maison et de soutenir l'économie locale, ben parce qu'il y a énormément d'opportunités, telles que ce soit le Nigeria, l'Arménie, on a plusieurs de ces écosystèmes, et on voit une diaspora de plus en plus structurée et élaborée pour soutenir le pays local et aider les entrepreneurs à avoir une stratégie internationale.
Merci beaucoup, Alizé Tonac. Je rappelle, vous êtes PDG de Seedstar World. Merci beaucoup.
Merci, Lila. Et place à notre French Tech Tour maintenant. On va s'intéresser au nouveau modèle d'accélération de start-up avec vous, Aurore Géraud.
Oui, François, pour le French Tech Tour de cette semaine, nous allons effectivement parler de nouveaux modèles d'accélérateurs. Et avec moi aujourd'hui, Eric Vessé, qui est directeur de Scientipôle Croissance et Scientipôle Initiative, et Johan Jaffray, qui est directeur de l'Open Innovation Lab de l'atelier BNP Paribas, qui chapeaute non pas un, mais deux accélérateurs. Un premier qui est tout nouveau, qui est premier en France, FinTech, et un second que nous connaissons déjà, qui est Innove & Connect, qui d'ailleurs lance son appel à candidature actuellement. Alors, quand on est un accélérateur, actuellement on est confronté à une concurrence énorme, comment on fait pour se différencier ?
Effectivement, il y a de plus en plus d'accélérateurs, mais il y a également de plus en plus de start-up, donc je pense qu'il faut trouver un bon positionnement. Il ne s'agit pas d'arriver en concurrence frontale. Au Lab, on a choisi d'accompagner les grandes entreprises et les ETI, et les aider à externaliser une partie de leur innovation. Et dans une démarche d'open innovation, on a décidé de monter un accélérateur, mais qui est plus un accélérateur de business, dans lequel, en fonction des enjeux des ETI et des grandes entreprises qui sont partenaires d'une saison d'accélération, on va aller sourcer des startups qui répondent à ces enjeux. Et ensuite, pour que les projets démarrent et aillent très vite à des cas concrets de business, on pilote cet accélérateur sur une période courte, 6 mois en l'occurrence pour notre programme Innove & Connect et 4 mois pour notre accélérateur spécialisé en finance assurance.
Donc vous vous différenciez aussi par l'aspect proximité entre l'ETI et puis la start-up ?
Exactement. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est qu'à des stades d'amorçage, finalement, une ETI, une grande entreprise de Toulouse, elle connaît très bien les entreprises de son écosystème régional, mais c'est plus compliqué finalement d'attirer des start-up internationales quand elles sont très jeunes, parce qu'elles n'ont pas cette force commerciale d'aller se développer dans toutes les régions. Donc nous, par ce programme très court, on réussit à connecter des deux entités qui sont très différentes au départ sur un même objectif, et sur ce temps très court qui est quasiment en fait une phase de flirt, on voit si elles ont un intérêt à continuer à travailler ensemble.
S'agissant de start-up que nous accompagnons dans cet accélérateur, pour pouvoir délivrer un programme d'accompagnement sur 3 ans, puisque c'est aussi une caractéristique distinctive de notre accélérateur, c'est-à-dire d'accompagner les jeunes entreprises de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc ça prend un peu de temps. On pense que l'enjeu effectivement est précisément le passage du cap de ce 1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc il faut du temps. Et donc s'il faut du temps dans l'accélérateur, ben, effectivement il faut des ressources, et donc ayant ces ressources de mécénat, ça nous permet de ne pas facturer d'une part, donc de ne pas prendre de part au capital des entreprises, mais d'autre part d'avoir une facturation très douce.
Et qu'est-ce que vous pensez de la spécialisation ?
Ben nous, on pense précisément que c'est pas important à ce stade-là, et que finalement, ce qui réunit ces startups est plus important que ce qui les sépare, et que leurs problématiques sont en réalité plus communes que divergentes. Donc c'est pour ça qu'on a choisi précisément de ne pas faire un accélérateur thématique. On peut dire qu'il y a une thématique commune, qui effectivement sont toutes des boîtes d'innovation technologique, donc elles ont toutes de la R&D, elles ont toutes du financement de la recherche et développement à faire, elles ont toutes de l'innovation, elles ont toutes des cycles de vente longs, mais à côté de ça, encore une fois, on a un écosystème qui est suffisamment puissant pour pouvoir ensuite, sur le volet commercial, s'adapter à leurs spécificités, mais sur un certain nombre de sujets, ça ne nous paraît pas segmentant. Voilà.
Par contre, pour vous, Johan, c'est l'inverse.
On a lancé un accélérateur fintech qu'on est en train de démarrer. Alors pourquoi on a choisi de verticaliser l'offre cette fois-ci ? C'est qu'on travaille pour BNP Paribas et pour les métiers de BNP Paribas. On a donc lancé un appel à candidature auprès de startups fintech, assurtech et tous les sujets autour de la data, de la sécurité, de la conformité également. Et donc ce choix, il est fait parce que tous les besoins, encore une fois, de nos partenaires dans cet accélérateur, qui peuvent être des métiers comme la banque privée ou des métiers comme le corporate banking, par exemple, vont chercher des startups qui vont les aider au quotidien dans leur activité à réinventer leur offre, leur service, la façon d'adresser, de s'adresser au marché.
Vous avez choisi d'être une association. Est-ce que ça donne de la liberté ?
Association, ça veut dire qu'on n'a pas, on n'est effectivement pas du tout dans une logique de profit, de retour sur investissement. Le seul retour investissement que l'on souhaite, c'est la création de valeur en termes de création d'emplois. Donc ça, ça donne finalement une relative liberté, puisque finalement, on ne fait que ce qu'on pense qui va créer de la valeur, c'est-à-dire créer des emplois en termes de programme d'accompagnement. Ça nous donne aussi cette forme de liberté-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une relation client-fournisseur avec les startups, on n'a pas de part au capital de ces boîtes, on leur fait pas payer l'accompagnement. Donc du coup, ça nous permet d'être vis-à-vis d'elles relativement exigeants, puisque tout ce qu'on leur propose est quasiment gratuit. Donc c'est aussi une forme de liberté qui pour nous est très très importante, d'avoir cette forme d'exigence-là, de pouvoir leur dire, en face de cette gratuité, oui, il va falloir faire des efforts, il va falloir faire des choses, sinon vous n'aurez pas forcément accès à tous les services que nous proposons. Voilà la deuxième liberté que ça donne. Ensuite, comme cette structure précisément, elle est soutenue aujourd'hui par beaucoup de corporates, on a aussi la chance peut-être de ne pas avoir, on va dire, un actionnaire majoritaire qui nous guiderait demain ou qui nous indiquerait demain la voie à suivre ou le chemin à suivre. Précisément, ce régime du mécénat, pour revenir à ça, il a aussi cette philosophie que on est proche finalement d'une philosophie de fondation, c'est-à-dire que on cherche à créer de la valeur par l'emploi, par l'accroissement économique, mais on est finalement une courroie de transmission entre différents acteurs qui interviennent dans ce dispositif avec un but ultime, et c'est ce qui mobilise aussi beaucoup, je pense, l'équipe de Scientipol, qui est que on est là finalement pour un petit peu pour le bien collectif.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Aurore, merci. Dans un instant, direction la rédaction de 01net.com avec Éric Le Bourlou, comme chaque samedi sur BFM Business. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Vous êtes sur BFM Business et c'est l'atelier numérique. Le crash test d'Antoine Cyr dans quelques instants, mais comme chaque semaine, il nous a rejoint dans ce studio. C'est Éric Le Bourlou. Bonjour Éric.
Bonjour.
Rédacteur en chef de Zéronet.com, premier site d'actualité high-tech en France. On va s'intéresser à l'actualité que vous avez pu lire cette semaine sur Zéronet.com et on va commencer par l'arrivée d'un smartphone très attendu, sans doute le smartphone, l'un des smartphones les plus attendus de l'année. Il s'agit du Samsung Galaxy S7. Ça y est, il est disponible.
Il est disponible depuis hier. Ça y est, il est arrivé dans toutes les bonnes crèmeries, on va dire. Et c'est vrai qu'il est très attendu puisque c'est clairement le smartphone qui s'oppose en frontal à l'iPhone d'Apple, le smartphone sous Android qui s'oppose au smartphone d'Apple.
Mais c'est vraiment le combat de titans.
Voilà,
on va
exactement.
Dire.
Donc c'est en fait à peu près ce qu'on fait de mieux en matière de smartphone Android aujourd'hui. Bon, ça va avec effectivement un prix qui est aussi pour le coup assez élevé.
Très haut de gamme.
C'est du très haut de gamme, mais c'est un smartphone très complet. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on l'a testé à 01net toute cette semaine. On a fait beaucoup de tests et ce qu'il en ressort, c'est que c'est un très bon produit, très bien fait. Voilà, pour nous, c'est même aujourd'hui, à l'heure actuelle, le meilleur smartphone Android, point.
Ressemble beaucoup au Galaxy S6, d'ailleurs.
Oui, c'est un Galaxy S6 amélioré, on va dire, avec où Samsung a corrigé les petits défauts qu'il y avait sur ce Galaxy S6, notamment l'étanchéité. Il est étanche, vous pouvez s'il tombe dans le lavabo, vous n'aurez pas de soucis, vous pouvez étendre sa mémoire, enfin tout ça c'est des choses qu'on avait reprochées à son prédécesseur et qui cette fois-ci sont corrigées.
Mais c'est bien parce que Samsung écoute ses utilisateurs, l'étanchéité, on l'avait sur le Galaxy S5, on l'avait perdu sur le S6, il avait été demandé. Le port SD qui est revenu, qu'il avait été demandé par les utilisateurs.
Exactement. Donc c'est plutôt un très très bon produit. Par contre, il y a aussi des petits défauts. Il n'est pas aucun produit n'est parfait. Et le Samsung Galaxy S7 fait partie de ça. Il y a aussi ce genre de petits problèmes. Et on l'a remarqué pour plusieurs choses. Bon, déjà, il y a une histoire de production qui fait que il n'a pas la même puce partout. Alors ça, c'est assez courant. Hein. Les clients ne savent pas forcément, les consommateurs le savent pas forcément, mais il n'a pas le même processeur partout. Et en Europe, on a un certain processeur. Aux États-Unis, ils ont un autre processeur au cœur de ce mobile. Et effectivement, ces processeurs ont des performances un petit peu différentes, on va dire. Et ce qui fait que, par exemple, le processeur qu'on a en Europe assure au Galaxy S7 une meilleure autonomie, mais de moins bonnes performances graphiques. Tandis qu'aux États-Unis, ils ont un petit peu moins d'autonomie, mais de meilleures performances graphiques. Bon, ça.
Alors que c'est le même smartphone.
C'est le même smartphone.
C'est pas indiqué sur la boîte.
Non, à fait. C'est juste que, c'est
comme ça.
D'un côté, on a un processeur Samsung et de l'autre côté, on a un processeur Qualcomm.
Le Qualcomm est plus puissant, en fait.
Exactement.
Hein, c'est ça.
Exactement. Mais, voilà. Donc, Donc ça c'est bon, ça c'est un petit défaut, mais de toute façon vous ne pourrez rien y faire puisque de toute façon la version européenne c'est la version Samsung.
Sauf si vous l'achetez aux États-Unis.
Sauf si vous l'achetez aux
États-Unis.
Oui, effectivement, mais effectivement si vous l'achetez ici, vous n'avez pas le choix. Non. L'autre petit problème qu'on a remarqué qui est peut-être un petit peu plus gênant et qui effectivement est intéressant en tout cas, c'est que ce Galaxy S7 est un petit peu moins bon. Et ça, c'est assez surprenant, en photo que son prédécesseur, le Galaxy S6. Voilà, on a fait des tests approfondis, on a pris beaucoup de photos avec les deux téléphones, et on s'est rendu compte qu'il était très rapide, c'est-à-dire que voilà, l'autofocus, il est extrêmement rapide, vous prenez des clichés à la vitesse de la lumière avec, plus rapidement qu'avec son prédécesseur, parce qu'il a une nouvelle technologie de photo, il a moins de mégapixels, mais il a une nouvelle technologie qui fait qu'il est plus rapide. En revanche... Au final, les clichés que vous allez prendre avec sont un petit peu moins riches, un petit peu moins détaillés, un petit peu moins naturels. Et ça, c'est un petit peu bizarre. C'est vrai qu'il y a un petit retour en arrière de ce côté-là, du côté de la photo. Et ce n'est pas, par contre, on peut dire que c'est le meilleur téléphone Android, mais si vous êtes vraiment fan de photos, attendez un peu, parce que c'est pas forcément le meilleur photophone qui va sortir cette année.
Alors, c'est étonnant parce que c'est vrai que Samsung, lors de sa présentation à Barcelone, crier que c'était le meilleur appareil photo, etc.
Exactement.
Et là, on se retrouve finalement avec un S6 qui est sorti il y a un an, qui est meilleur en fait que
Exactement.
Ce S7.
Parler des concurrents type LG G4 qui fait aussi d'excellentes photos,
Bien sûr.
S'il est pour le coup un peu moins rapide au déclenchement. Donc c'est ça aussi. Alors ça.
Et on attend le LG G5 qui va pas tarder à arriver.
Exactement, qui va pas tarder à arriver, qui sera notre prochain gros test d'un point de vue smartphone.
Voilà. Bon, pour l'instant, tout ça est un peu étonnant.
Ouais, voilà. Mais en tout cas, ça reste quand même un des smartphones de l'année. Hein, ça, c'est sûr. On verra bien ce que va donner Apple avec son iPhone 7, pardon. Mais voilà, le Galaxy S7, c'est une valeur sûre.
Puisqu'on parle d'Android, on va y rester, Eric, avec des informations concernant la prochaine version d'Android.
Ouais.
Vous savez qu'Android, c'est un peu comme comme tous les systèmes d'exploitation. Il y a tous les ans une nouvelle version qui arrive. C'est le cas aussi pour iOS. Donc pour l'iPhone, pour l'iPad. Ouais. Et là, on est sur Android N.
Exactement, elle a été annoncée par Google.
C'est mystérieux d'ailleurs, ce N. Hein.
N, pourquoi? Alors, vous savez que Android prend à chaque fois un nom de gâteau. Et ce gâteau, ce nom de gâteau suit les lettres de l'alphabet. Donc, on est de gâteau ou de friandise d'ailleurs, puisque la dernière version s'appelle Marshmallow. Avant, on a eu le droit à Lollipop, L, M. Et donc, maintenant, c'est N. Donc, on ne sait pas ce que ça va être, certains paris, notamment sur Nutella, parce qu'ils ont fait déjà un partenariat avec KitKat pour. La version K.
On verra bien.
Mais en tout cas, Google a présenté la première version de cette nouvelle version d'Android aux développeurs. Hein, c'est pas quelque chose que vous pouvez installer sur votre propre smartphone. Ça ne s'installe que pour l'instant sur les smartphones de Google, c'est-à-dire les Nexus et les plus récents, c'est-à-dire ceux qui ont Nexus 5 ne pourront pas l'installer. C'est juste pour les Nexus les plus récents. Et cet Android N donc apporte pour l'instant, pas grand chose de neuf, on pourrait dire, au premier abord. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. Il y a notamment l'arrivée de l'écran splitté. Alors, ceux qui connaissent justement, on en parlait Samsung, connaissent déjà cette fonction. Vous pouvez couper votre écran en deux entre deux applications pour avoir, par exemple, d'un côté votre SMS, votre application de SMS, et de l'autre, votre navigateur.
Ou jouer, par exemple.
Par exemple. Et ça arrive dans Android N. C'est la principale nouveauté d'Android N qu'on a pu voir. Qu'on a pu essayer puisqu'on a joué avec sur cette nouvelle version pour les développeurs. Il y a d'autres petites choses qui sont plutôt ergonomiques. Hein. Il y a notamment les notifications qui sont améliorées encore sur Android N. Et ce qu'on voit aussi, c'est une amélioration des performances assez notable sur cette nouvelle version.
Alors c'est pas pour tout de suite. Hein. Ça sortira sans doute à la fin de l'année.
Exactement. Hein. Puis on sait en plus que Android N, ça met du temps, beaucoup de temps avant de se retrouver
sur
dans les
tous les téléphones portables. Ça prend du temps.
Exactement.
Les parts de marché d'Android sont toujours assez impressionnantes.
Hein, tout à fait. C'est toujours, en tout cas en France, le système numéro un et de loin, avec à peu près 72% de parts de marché. Alors, vous imaginez bien que le reste, ça reste un petit peu l'iPhone
qui a un peu plus de 20, c'est ça.
Et puis le reste, il n'y a plus grand chose.
C'est
Windows Phone qui dévisse complètement. Alors qu'il y avait encore pour Windows Phone une bonne petite part de marché en France, là cette année, selon les derniers chiffres du premier trimestre, ça se passe très mal. Donc Android.
Ça devient un peu compliqué pour Microsoft dans le domaine du mobile.
Ça devient de plus en plus compliqué. Il va falloir qu'ils réagissent très 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 vite pour pouvoir survivre tout simplement dans le mobile.
On va parler maintenant d'intelligence artificielle avec, on s'en rend compte, d'année en année, des victoires, de l'intelligence artificielle face à l'intelligence humaine. On se souvient évidemment de ce champion du monde d'échecs qui avait été battu par Deep Blue, ce fameux PC d'IBM.
Gary Kasparov, qui l'avait très mal pris d'ailleurs.
Il y a eu même eu un film d'ailleurs, je crois, d'ailleurs très réussi. Et ce n'est pas terminé.
C'est pas terminé puisque là, en ce moment, alors c'est pas fini encore, mais en ce moment, il y a un match que tous les spécialistes en intelligence artificielle et que tous les joueurs de Go sur la planète sont en train de suivre avec beaucoup d'intérêt. C'est le match entre Lee Sedol, qui est le champion du monde de Go, le meilleur joueur de monde du Go, et une machine, celle de Google, qui s'appelle AlphaGo. En fait, celle de Google, celle de DeepMind plus exactement, qui a été rachetée par Google et qui est une entreprise britannique. Et cette entreprise s'est dit, on va essayer de battre le meilleur joueur de Go au monde, dans une partie à la loyale. Et c'est effectivement le cas. Là, pour l'instant, la machine est en train de gagner sur l'humain, alors que lui il pensait que ce serait jamais possible. Il s'est dit 3 semaines avant que il les prenait un peu de haut en disant ouais, ils sont gentils, ils ont battu déjà le premier joueur européen, mais moi ça va être une autre paire de manches. Mais non, là, ce qu'il a dit clairement, c'est que il ne s'attendait pas à ce que la machine soit aussi bonne au jeu de Go. Et voilà, il a arrêté en fait ses parties à chaque fois parce que il a eu des problèmes pour gagner. Il s'est dit je préfère abandonner. Donc pour l'instant c'est un peu mal parti, et on va voir ce que ça va donner au final. Il reste encore quelques parties. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, c'était le jeu de Go, le grand défi de l'intelligence artificielle, puisque ce jeu est très compliqué pour une machine à appréhender, et c'est beaucoup plus compliqué que les échecs,
par exemple. Parce qu'il y a beaucoup plus de combinaisons.
Exactement, on ne peut pas réfléchir comme on le fait pour les échecs en testant toutes les combinaisons, donc il a fallu créer des programmes qui reposent sur le deep learning, c'est une technique d'intelligence artificielle qui permet à la machine d'apprendre de ses propres erreurs et de sa propre expérience pour en faire le joueur parfait. Et en fait, c'est en train d'arriver. Faut bien dire que personne ne s'attendait à ça avant une quinzaine d'années. Mmh. Et voilà, Google a déjà réussi plus ou moins à faire lapsus révélateur, une machine imbattable au Go.
On va terminer avec cette information qui a été délivrée par Apple cette semaine. Ça y est, on connaît la date du prochain événement Apple.
Exactement.
L'événement de printemps, d'ailleurs, ce sera le 21 mars.
Ce sera le 21 mars, le printemps sous les couleurs d'Apple. Ce sera à Cupertino, ce sera pas à San Francisco comme ils le font, ce sera à la maison. Et d'ailleurs, ils font une petite référence à ça dans leur invitation, puisqu'ils disent, on va vous mettre dans le loop, c'est-à-dire on va vous mettre dans la boucle, et c'est Infinite Loop, c'est l'adresse d'Apple à Cupertino. Donc, petit jeu de mots pour cette invitation. Apple, donc là, ce sera pas l'iPhone 7, on en a déjà parlé ici, ce sera sans doute des produits un petit peu moins glorieux, mais c'est quand même des produits très importants, puisque ce sera notamment
un nouvel iPhone,
l'iPhone qui devrait s'appeler iPhone SE et qui sera l'héritier de l'iPhone à petit format, l'iPhone 5S, qui plaît à beaucoup de gens et qui a surtout l'avantage d'être un petit peu moins cher que les iPhones d'Apple.
Mais avec un écran plus petit, puisqu'on est sur du 4 pouces en fait.
On serait sur des 4 pouces, tout à fait. Alors il y aurait d'autres surprises, on ne sait pas trop ce que va faire Apple, mais il y aura sûrement un nouvel iPad et peut-être, pourquoi pas, des surprises au niveau de la montre, sa montre connectée Apple Watch.
Voilà, on en saura plus le 21 mars, à la fois sur Zeronet.com et sur Zeronet TV.
On suivra ça de près.
Aussi sur Zeronet TV, où on vous proposera une grande soirée en direct pour vivre, seconde par seconde, toutes les annonces de cet événement, donc depuis Cupertino. Merci beaucoup Eric.
Merci.
Eric Le Bourlou, rédacteur en chef, donc Zeronet.com. Vous restez avec nous. On va se retrouver dans un instant pour terminer cet atelier numérique avec Antoine Cyr et le crash test. Donc vous restez là. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Avant de terminer cet atelier numérique avec le crash test et faire un point sur le moteur de recherche Lycos, existe-t-il encore, tiens, ce moteur? On verra ça avec Antoine Cyr dans quelques instants. Mais dans l'immédiat, notre décryptage, on évoque le sans contact avec vous, Lila.
Mais oui, François, on va évoquer à la fois le paiement sans contact et plus simplement Le paiement mobile, pourquoi? Parce que l'une des stars, l'une des grandes tendances stars du Mobile World Congress de cette année a bel et bien été le paiement mobile. Les acteurs traditionnels du paiement tels que Mastercard, Visa, PayPal, mais également les opérateurs mobiles tels que Vodafone ou Telefonica se sont tous fendus d'une annonce sur le sujet cette année. Et selon certains, le paiement mobile pourrait rimer à l'avenir avec le visage et le véhicule. Alors on va commencer par le visage avec Mastercard. Mastercard qui a annoncé se lancer dans un système de paiement par selfie. Alors le principe, ce serait que le visage serait garant du paiement grâce à un système biométrique de reconnaissance faciale. Alors l'initiative, elle devrait être mise très prochainement en place dans une quinzaine de pays. Et si on en croit une étude de Mastercard Pays-Bas, ses clients néerlandais accueilleraient plutôt à bras ouverts la nouvelle. Alors cette étude, elle révèle tout simplement que 90% des sondés paieraient beaucoup plus volontiers grâce à une identification biométrique, qu'elle soit par reconnaissance digitale ou faciale. Une autre évolution, une autre initiative tout aussi intéressante, c'est tout simplement la voiture qui pourrait être un terminal de paiement dans le futur. Alors, c'est Visa qui a révélé toujours au Mobile World Congress un concept d'application qui a été développé en partenariat avec le constructeur automobile Honda. Et donc, en fait, cette application, elle serait tout simplement intégrée à l'interface connectée de la voiture, donc au tableau de bord. Cette application alerterait son conducteur du niveau d'essence, le dirigerait vers la station la plus proche. Une fois garé, le conducteur pourrait obtenir une estimation du coût du plein et il pourrait toujours, de cette application et donc de son tableau de bord, régler le tout en restant dans sa voiture. C'est assez génial. Restons dans la voiture pour répondre à la problématique du stationnement. Toujours Visa et Honda se sont alliés avec une start-up, la start-up ParkWiz. Et donc, en fait, le principe serait que le conducteur valide sa transaction, toujours après une estimation du coût du parking, toujours à partir de son tableau de bord. Une troisième et dernière tendance, c'est l'incursion de PayPal. On en a déjà parlé la semaine dernière avec son directeur général France. Alors c'est tout simplement PayPal qui poursuit sa stratégie pour être un acteur du paiement mobile. Alors comment? En s'associant, et ça c'est assez marquant, au chef de file de secteur et qui a donc annoncé un partenariat avec un opérateur mobile, Vodafone. Donc Vodafone intégrerait PayPal comme moyen de règlement en Espagne. À savoir que le client espagnol, Vodafone, pourrait recharger son forfait à partir de PayPal. On l'a bien compris, la guerre du paiement mobile a bien eu lieu et continuera d'avoir lieu.
Merci Lila, et place maintenant à notre crash test. Vous savez, comme chaque samedi, on conclut cet atelier numérique avec le crash test d'Antoine, mon cher Antoine.
Cette semaine, François.
Cette semaine, eh bien, nous allons revenir à la préhistoire du web pour nous intéresser à un moteur de recherche, si vous n'êtes pas trop jeune, que vous avez sans doute utilisé.
Oui, c'était un moteur de recherche, c'était un portail aussi. Et d'ailleurs, ce portail était l'un des sites internet les plus consultés à l'époque, à la grande époque de la naissance du web. Par exemple, je peux vous dire que en 1997, Lycos était le huitième portail le plus consulté au monde, juste devant MSN, et alors que, tenez-vous bien, Google ne faisait pas partie à l'époque des 10 premiers. Hein, il n'existait pas, Google.
Non, Google n'existait pas.
En 1999, on a Lycos qui est le quatrième site au monde le plus consulté du monde, alors que par exemple Amazon est à la septième place, hein, donc c'est quand même assez intéressant. Et puis en 2001, donc on a cette quatrième place de Lycos et l'apparition de Google à la douzième place.
Ben pétard.
Et voilà. Et donc en 2003, Lycos se fait doubler par Google. Là, on a Google qui est sixième et Lycos qui est septième. Et puis en 2004, Google est quatrième et Lycos disparaît pratiquement dans les profondeurs du classement.
C'est Google qui a tué le Labrador ?
Donc c'est Google qui a tué le Labrador. Parce que, en effet, donc vous faites bien de le dire, Lycos était connu comme étant le portail dont l'enseigne était un Labrador.
Et oui.
Voilà. Alors...
Bah, on se souvient bien de « Va chercher », c'était ça hein, le slogan de l'époque, hein, « Lycos, va chercher ».
Ouais. Et pourtant, figurez-vous que l'enseigne, le nom Lycos, n'a pas pour origine un chien, mais un autre animal qui est une araignée. Car en fait, le nom Lycos est l'abréviation de celui d'une araignée qui chasse en se précipitant sur ses proies, la Lycosidae.
Ah oui.
Ouais. Et donc Lycos, c'était à l'origine un projet expérimental de moteur de recherche qui avait été mené par le professeur Michael Moldin de l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh. Et puis donc après, c'est devenu une marque commerciale. Elle s'est développée à partir de 94. Elle s'est fait une renommée mondiale et puis s'est développée petit à petit en Europe. Et ensuite, il y a eu le rachat par Spray. Il y a eu le rachat par un conglomérat sud-coréen qui s'appelle Dome, qui a racheté Lycos l'année donc de la chute de Lycos. Donc là, bah, les Coréens,
ils n'ont pas fait une bonne affaire. Hein,
non, ils n'ont pas fait une bonne affaire. Ils ont regardé Lycos tomber, hein, et donc on a eu d'un seul coup la chute de ce moteur de recherche. Alors qu'il y avait énormément de services, d'ailleurs, il n'y avait pas seulement le moteur de recherche, il y avait des services de messagerie qui étaient attachés à ça, il y avait Lycos Mail, Lycos Chat, Caramel, qui a été un service de chat un peu pionnier, oui. Dont se souviennent tous les amateurs du web. Et dont
d'ailleurs, on va
en reparler.
Parce qu'on vous prépare une saga préhistoire du web.
Et est arrivé sur Lycos. C'est d'ailleurs aussi un peu quand même la chute de Lycos,
oui,
qui a précipité la chute de Caramel. Voilà. Dans les années 2000, on a encore une espèce de volonté de Lycos de se développer, mais petit à petit, ce Lycos s'est cassé la figure. Et figurez-vous que malgré tout, Lycos existe encore, a été racheté par un groupe indien, et là arrive avec des ambitions qui sont complètement nouvelles et complètement différentes et qui sont des ambitions dans l'objet connecté.
Ah oui,
figurez-vous.
Tiens,
et oui,
Lycos est en train de renaître de ses cendres.
C'est-à-dire que le groupe indien qui a racheté Lycos ne veut évidemment pas reprendre la place que Google occupe maintenant, parce que c'est un peu râpé. Mais donc, ils ont créé un bracelet et une bague connectés, qui s'appellent The Band et The Ring, et qui sont reliés, comme évidemment une Apple Watch par exemple, au smartphone de leurs utilisateurs. Alors l'idée, c'est que ces objets connectés aient quand même comme première caractéristique la surveillance d'activité du corps humain, comme le sommeil ou comme le rythme cardiaque, et puis ils comportent également un réveil et une option tactile de déverrouillage du smartphone. Et puis on va trouver aussi évidemment, alors c'est une technologie d'objets connectés qui ne fonctionne que sur les appareils Android, hein. On sait qu'il y a une grande séparation dans les objets connectés, et qui se vend pour l'instant aux États-Unis à respectivement 125 pour la montre et 60 dollars pour la bague. Voilà, donc c'est assez c'est un pari assez osé que de jouer sur ce nom Lycos, qui était un nom de site, un nom de moteur de recherche, pour faire un objet connecté. Maintenant, si vous tapez Lycos...
Ouais, alors je me suis amusé à taper sur Lycos.
Ouais. Et donc, quand vous allez sur Lycos, vous voyez un site qui est assez beau. Hein.
Ouais.
Il est bien entretenu. Il est.
Il y a toujours le chien.
Il y a toujours le chien
sur la home.
Absolument.
Donc ils ont gardé le Labrador.
Ouais.
C'est pas le même. Hein.
Non.
C'est pas le même.
Ah non, on est peu de choses quand on est un chien. Voilà.
Mais il y a un portail.
Avec de l'actu, etc. Mais il a une bonne tête, donc je sais pas. Honnêtement, la percée dans les objets connectés avec le nom Lycos, je sais pas si c'est quelque chose qui est en train de transformer la planète. Mais peut-être qu'à un moment, il y aura la bonne idée de relance de Lycos qui va apparaître et que les Indiens qui ont acheté ce nom finiront quand même par rentabiliser leur investissement. En tout cas, il est présent dans nos souvenirs.
Voilà, bonne chance à Lycos et aux objets connectés qui est l'un de ces nouveaux paris. Antoine, on se retrouve la semaine prochaine, bien
Absolument.
Évidemment, pour cet atelier numérique. Vous le savez, chaque samedi, 16h-18h sur BFM Business. D'ici là, bien sûr, portez-vous bien. Très bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et on sera là samedi dès 16h.